L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore une fois aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques sur le thème « Le veau d'or ». Avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter à baisser la tête dans la prière pour dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur. Prions. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous voici devant toi pour entendre ta parole, pour entendre ton message, pour entendre ton appel, pour entendre, Seigneur, ton message venant du ciel. Bénis ces hommes, bénis ces femmes, Seigneur, qui nous écoutent de par le monde en ce moment, que ce soit sur des radios FM, sur des radios Internet, sur des supports informatiques, sur des sites Internet qui logent ces émissions, Seigneur, bénis ces hommes, bénis ces femmes. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Le veau d'or. Je vous invite encore à lire dans Exode 32, Exode 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour de Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce peuple, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fente. Et il dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, « Demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Comme je l'ai dit dans les précédentes émissions, cette histoire est une histoire très triste. Très triste, mais qui nous enseigne beaucoup de choses sur notre marche chrétienne, qui nous enseigne beaucoup de choses sur la marche avec Dieu. Dans 1 Corinthiens 10, verset 11, il nous est dit que ces événements ont été écrits pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus dans les temps de la fin, afin que nous ne puissions pas faire les mêmes erreurs. Mon frère, ma sœur, cette émission, ce message que vous êtes en train d'écouter en ce moment, n'est pas un message pour vous condamner, n'est pas un message pour vous briser, n'est pas un message pour vous humilier, mais au contraire, c'est un message d'alerte, c'est un message d'alarme, c'est un message de réveil, c'est un message pour vous dire « attention, si vous êtes en train de prendre ce chemin, sachez qu'avant vous, il y avait d'autres hommes, d'autres femmes qui ont pris ce chemin-là et ils ont mal fini. » Hier soir, au moment où j'étais en train de méditer un tout petit peu, j'étais en train d'écouter la prédication d'un pasteur en France qui parlait de la théorie de la souris. Je vais vous raconter ça en quelques secondes, la théorie de la souris. Il dit, 4 générations de souris sont en train d'observer les êtres humains en train de poser un piège dans lequel ils mettent de la nourriture. L'arrière-grand-père, attiré par sa convoitise, a voulu manger cette nourriture et sa tête a coupé. Le fils de ce grand-père a vu cela. Le petit-fils et l'arrière-petit-fils ont tous vu que leur grand-père est mort. Mais le lendemain, le fils tombe dans le même piège. Le petit-fils tombe dans le même piège et l'arrière-petit-fils tombe dans le même piège. Il a appelé ça la théorie de la souris. Je ne voudrais pas que vous et moi, nous pratiquions la théorie de la souris. Nous savons ce qui est mal, nous savons ce qui est bien. Ne pratiquons pas le mal parce que nous savons que le mal mène en enfer. Israël dans le désert. Délivré de la puissante main des Égyptiens, par la toute puissante main de Dieu. Israël conduit miraculeusement par Dieu dans une colonne de nuée, dans une colonne de feu la nuit, dans une colonne de nuée le jour. Israël traverse la mer Rouge avec la puissance de Dieu. La mer se sépare en deux. Dieu dit à Israël, dans Exode 20, verset 23, si je ne me trompe pas, Exode 20, verset 23, tout à fait, « Vous m'avez vu, je vous ai parlé du ciel. Ne vous faites pas des veaux d'or, ne vous faites pas des statues d'or et d'argent pour me les associer. » En d'autres termes, Dieu disait ceci, « Vous m'avez pas vu, vous n'avez pas vu mon visage, vous ne savez pas à quoi je ressemble. Alors ne vous permettez pas un jour de vous faire des représentations de ma personne. Des statues en or, des statues en bronze, des statues en argent, des statues en cuivre, en pierre, ne faites pas ça. Je ne veux pas de ces choses-là. » Mais malheureusement, Israël dans les déserts applique la théorie de la souris. Dans Exode 32 que nous venons de lire, Israël bâtit un veau d'or et se l'associe, et l'associe au Dieu d'Israël en disant « C'est toi qui nous as sortis de la main de l'Égypte, c'est toi qui nous as sortis du pays d'Égypte, c'est toi qui nous nourris, c'est toi qui nous donnes de l'eau. » Mon frère, ma sœur, ne soyons pas ainsi. Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens, signé pour nous servir d'exemple, afin que nous ne répétions pas les mêmes choses. Nous avons commencé à parler sur le manque de persévérance d'Israël. Nous avons défini la persévérance comme ceci, le fait de continuer malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré l'opposition, malgré la difficulté, de persévérer sur le chemin. Bien sûr, on peut persévérer dans le mal comme on peut persévérer dans le bien. Le but de cette émission, le but de ce thème n'est pas de vous encourager à persévérer dans le mal, mais à persévérer dans les bonnes choses. Moïse est monté sur la montagne, parler avec Dieu, recevoir des instructions de Dieu, depuis, je crois, Exode 24. Il nous est dit pendant 40 jours. Lisons ne lisons pas. Moïse est monté pendant 40 jours et 40 nuits pour recevoir des instructions de la part de Dieu sur le culte qu'Israël doit lui faire, sur sa marche, sur ses commandements, sur ses instructions. Moïse va même recevoir des tables faites par Dieu sur lesquelles il y a des 10 commandements écrits par le doigt de Dieu. Mais Israël ne va pas persévérer, parce qu'après 40 jours, Israël va se faire un veau d'or. Dans Hébreux 6, verset 12, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15, il nous est dit ceci. Vous y êtes, je suis à Hébreux 2, Hébreux 6, il nous est dit ceci. En sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses de Dieu. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même, et dit, « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Deux fois, nous retrouvons le mot « persévérance » dans ces trois textes. Verset 12, « En sorte que vous ne vous relâchiez point. » J'aime cela. « Celui qui ne persévère pas, c'est celui qui se relâche. » Le livre de Proverbes nous dit que celui qui se relâche dans le travail est le frère de celui qui détruit. Une fois que nous nous sommes engagés avec Dieu, dans la marche avec Dieu, il est évident que Satan va s'opposer ouvertement à nous. Ça peut être par les armes, ça peut être par le découragement, ça peut être par l'humiliation, ça peut être même par une tentative de meurtre, de mort, de tuer. Combien Satan a tué dans l'histoire de l'Église chrétienne, a tué des fidèles de Christ. Il en a tué pour décourager les autres à persévérer avec Dieu. L'écrivain aux Hébreux nous dit il ne faut pas se relâcher. En d'autres termes, c'est comme si vous aviez commencé une marche chrétienne avec Dieu à une vitesse de 15 km à l'heure. Celui qui se relâche, c'est celui qui baisse dans son régime. Il passe de 15 km à 14, à 13, à 12, à 5, à 3, à 2, à 1, à 0, et finalement on n'avance plus. Et celui qui n'avance plus, dans la marche, est en train de reculer. Celui qui se relâche dans le travail est frère de celui qui détruit. Donc, si vous n'avancez plus avec Dieu, vous êtes en train de détruire le témoignage de Dieu dans votre vie. Vous êtes en train de détruire votre marche chrétienne. Et certainement que vous êtes en train de détruire, vous êtes en train de tenter de détruire les autres. Oui. Lorsqu'on ne marche pas avec Christ, on tente de détruire les autres. Écoutez, ceux qui ne marchent pas avec Dieu, qui vivent dans le péché, quand ils pratiquent par exemple l'adultère, le vol, le mensonge, ils sont en train de détruire les autres. Ils sont en train de détruire les autres. Et là, je prends à une plus petite échelle, mais prenons à une plus grande échelle. Un dictateur qui ne marche pas avec Dieu. Un autoritaire qui ne marche pas avec Dieu. Une autorité qui ne marche pas avec Dieu. Vous imaginez les décisions qu'il prend, mauvaises sous l'influence de Satan, l'impact et l'influence qu'il aura sur le monde. Supposons qu'il gère une ville de 30 000 personnes et qu'il installe dans la ville des signes démoniaques, par exemple. Vous imaginez ces 30 000 personnes qui pourront être négativement influencées dans le mal. Il encourage la pornographie, il encourage la pédophilie, il encourage le mensonge, il encourage l'adultère, des sacrifices à des faux dieux. C'est 30 000 personnes. Voilà pourquoi nous devons prier pour nos autorités, tant politiques, nos autorités d'église, nos autorités militaires, administratives, nous devons prier pour eux parce qu'ils ont une plus grande influence. Et s'ils prennent des mauvaises décisions, ils vont négativement influencer la population pendant des années. En sorte que vous ne vous relâchiez point. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. L'écrivain nous encourage à imiter ceux qui ont marché par la foi et qui ont de la persévérance, et ils ont obtenu leurs promesses. Et ils ont obtenu les promesses que Dieu leur a faites. Ah, c'est ainsi qu'Abraham, verset 15, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. La persévérance dans la marche chrétienne est un outil et est un ingrédient qui est très important. Lorsqu'on parle de persévérance, on parle du fait de continuer malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré la haine, malgré l'opposition, qu'elle soit ouverte, fermée ou cachée. Persévérer. Écoutez, mon frère, quand vous marchez avec Christ, on va vous solliciter dans le monde des ténèbres. On va vous solliciter. Quand vous étiez sans Christ, vous n'étiez pas sollicité sexuellement. Mais dès que vous êtes passé à Christ, vous êtes sollicité dans ce domaine. Lorsque vous étiez sans Christ, vous étiez capable de tenir certains engagements. Mais maintenant que vous venez à Christ, vous avez tellement de problèmes qu'on vous propose de commencer à ne plus respecter vos engagements. Que ce soit dans le domaine des finances, que ce soit dans le domaine du sexe, dans le domaine même de la parole de Dieu. Ne vous relâchez pas. Ne vous relâchez pas. Ne baissez pas de régime. Au contraire, augmentez, persévérez. Ne vous relâchez pas dans les dîmes et dans les offrandes. Écoutez, moi je suis pleinement convaincu que lorsqu'on donne sa dîme, lorsqu'on donne ses offrandes, lorsqu'on soutient l'œuvre de Dieu, Dieu bénit cette personne aussi. Dieu a tout intérêt à faire prospérer cette personne parce que plus il aura de l'argent, plus il va donner. Devenons des canaux de bénédiction pour ce monde. Devenons des canaux de bénédiction pour ce monde. Je parle de quelque chose que je suis en train de vivre. Bien sûr, on ne comprend pas tout au départ, mais Dieu n'est pas tenu de nous expliquer tout au départ. Mais il nous demande de persévérer et de lui faire confiance. De ne pas relâcher, de ne pas abandonner, mon frère, ma sœur. Dans 2 Timothée 3, verset 12, 2 Timothée 3, verset 12, Paul dit ceci à son fils Timothée dans la foi. Il dit ceci, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » En d'autres termes, tous ceux qui veulent marcher avec Jésus doivent persévérer parce qu'il y a un combat, parce qu'il y a une opposition. Vous savez, ces persécutions ne sont pas toujours physiques. Elles peuvent être d'ordre émotionnel, d'ordre psychologique, d'ordre spirituel. Tous les pays n'ont pas forcément les lois qui leur permettent la libre expression des cultes. Peu importe le culte que je choisis, je suis libre. Tous les pays n'ont pas ça. Il y a d'autres pays où c'est interdit de marcher avec Christ. C'est interdit d'avoir une autre religion que la leur. C'est interdit. Ils sont persécutés physiquement. Entre parenthèses, nous devons prier pour les églises qui sont persécutées dans le monde. Un des cours que j'ai suivi par correspondance, un des professeurs disait que entre 1940 jusqu'en 2000, il a été recensé 60 millions de personnes qui ont été tuées parce qu'ils voulaient servir Jésus-Christ. Vous imaginez 60 millions de personnes. Quelqu'un m'a même dit, quand je lui parlais de ça, mais il dit, mais c'est un génocide, c'est un meurtre, c'est grave. Donc si on marche avec Jésus-Christ, on doit s'attendre à ce qu'il y ait de l'opposition. S'il n'y en a pas, tant mieux. S'il n'y a pas d'opposition physique, tant mieux. Mais s'il n'y a aucune forme d'opposition dans notre marche chrétienne, alors il faut commencer à se poser des questions. Est-ce que nous sommes réellement en train de marcher avec Jésus-Christ? Parce que tout nous montre dans le monde aujourd'hui que ça ne va pas. On est des fois agressé à la télévision, à la radio, dans les lectures, par un flash publicitaire. On est des fois agressé. Je me rappelle une fois, je montais dans un taxi. Il y avait une jeune dame assise à mes côtés. Et elle était tellement mal habillée que la fente de sa robe était tellement grande, profonde, qu'il manquait de peu que je voie son sous-vêtement. Alors, j'étais tellement mal à l'aise qu'à un moment, je me suis excusé auprès de la dame, je lui ai demandé si elle pouvait s'asseoir le plus convenablement possible parce que elle me gênait. Elle a rigolé, mais elle a quand même exécuté. Nous sommes agressés sous différentes formes aujourd'hui. Nous sommes persécutés sous différentes formes. Nous devons faire attention et nous ne devons pas abandonner le combat. La marche chrétienne est un combat face au monde des ténèbres. Paul parle du chrétien comme étant un soldat. Israël, dans le désert, dans Exode 32, devait persévérer. Ils n'ont pas vu Moïse depuis 40 jours et 40 nuits. Mais avant de partir, Moïse leur a dit, au travers de Aaron et des autres anciens, en cas de problème, référez-vous à Aaron et aux anciens. Au lieu de se référer, ils ont proposé un veau d'or. Parce qu'ils n'ont pas persévéré. Écoutez, où était ce veau d'or lorsque eux, ils étaient esclaves en Égypte? Le veau d'or n'était pas là. Le veau d'or ne les a pas trouvé des solutions. C'est Dieu. Et quand Dieu leur parle, ils ne voient personne, mais ils se font une représentation alors que Dieu leur a interdit de faire une représentation. Satan va toujours nous encourager à nous relâcher dans la marche chrétienne. Et forcément, lorsqu'on se relâche dans la marche chrétienne, lorsqu'on se relâche dans la marche avec Dieu, on commence à imiter les choses du monde, parce qu'on veut remplacer. Bon, écoutez, ils vont se dire, ok, Moïse est parti, Moïse nous a abandonnés, Moïse est mort. Mais nous ne voulons pas abandonner Dieu, mais nous ne voulons plus suivre le chemin de Moïse. Parce que Moïse, dans Exode 32, représente Christ. Jésus est monté, il s'est assis à la droite du Père, et il reviendra prendre son Église. C'est ce temps-là que nous sommes en train de traverser. L'histoire de ce veau d'or, c'est l'histoire que nous sommes en train de traverser avec Christ. Alors, ils disent, ce Moïse, nous ne savons plus ce qu'il est devenu. Mais nous voulons continuer à rester avec Christ, mais nous voulons continuer à marcher avec Dieu, mais nous ne voulons plus suivre le chemin de Moïse. Alors, nous nous relâchons, c'est ça qu'ils se disent, nous nous relâchons dans cette marche avec Moïse, et nous remplaçons par quelque chose, parce qu'un vide s'est créé. Un vide s'est créé. Pour se justifier. Alors nous remplaçons les choses du monde par les choses de Dieu. Ou plutôt nous remplaçons les choses de Dieu par les choses du monde. Nous voulons paraître spirituels. Alors nous avons des croix. Nous avons des statues de Jésus. Nous avons des statues de Marie. Nous avons des statues de Joseph. Nous avons des statues de Paul. Nous avons des statues des anges. Nous avons des statues des fondateurs des religions. pour lesquels nous adressons des prières. Nous leur disons, vous êtes saints, vous êtes plus saints que nous, vous êtes plus proches de Dieu que nous. Ce sont des mensonges du diable. Mais c'est sous l'étiquette du monde dit chrétien. Le veau d'or, ce n'était pas le dieu Ra, le dieu soleil, le dieu lune, le dieu poisson, le dieu de la terre. Non, ils ont représenté le dieu d'Israël par un veau d'or, comme pour rester dans le monde ou pour rester dans le monde spirituel proche de Dieu. Mais ils sont loin de Dieu, parce qu'ils font des choses que Dieu ne leur a pas demandées. Persévérons dans notre marche chrétienne. Jésus a fait la promesse, « Je viens bientôt ». Certains nous diront, mais ça fait 2000 ans que vous dites cela. Oui, ça fait 2000 ans. Il vient bientôt. Et s'il tarde, c'est parce qu'il ne veut pas que vous soyez perdus. Il veut sauver le maximum d'hommes et de femmes. Voilà pourquoi il permet que vous écoutiez cette émission aujourd'hui, parce qu'il veut vous sauver. L'histoire du veau d'or, c'est une image de l'histoire de l'Église des temps de la fin. Attention, ce n'est pas parce que Aaron, qui est le souverain sacrificateur de l'époque, qui représente les chefs religieux. C'est pas parce que les chefs religieux approuvent quelque chose qui est mal que cela veut dire que Dieu approuve aussi. Attention, voilà pourquoi j'encouragerai toujours tous ceux qui m'écoutent à lire la Bible d'un bout à l'autre. À lire la Bible d'un bout à l'autre. Dernièrement, je suis entré dans un site sur lequel il y avait un sondage. Il était posé la question, la fréquence de la lecture de la Bible dans la vie de l'internaute. J'ai cliqué et puis j'ai participé à ce sondage et puis j'ai eu les résultats après. Il est dit que 56% des personnes qui avaient participé à ce sondage avaient lu la Bible d'un bout à l'autre, lisaient la Bible chaque jour. Il y avait 56%. Je crois que c'était 32% qui lisait régulièrement la Bible pendant la semaine. Est-ce que vous pouvez imaginer que 44% des personnes qui ont participé à ce sondage ne lisent pas la Bible chaque jour? Et c'est un site qui est visité par des millions de personnes. Donc, je suppose, si je prends 1 million de personnes, je dirais que 560 000 personnes lisent la Bible chaque jour et qu'à peu près 300 000 personnes lisent la Bible régulièrement chaque jour et que le reste ne lit pas la Bible chaque jour. Vous imaginez, ça fait plus de 200 000 personnes. Et pourtant, chaque jour, ils sont sur un site chrétien. Je voudrais encourager les hommes et les femmes à lire la Bible chaque jour. C'est comme cela que nous allons déceler les ruses du diable. Les ruses du diable. Le diable a inspiré Israël à faire un veau d'or. C'était le rôle de Aaron de refuser. Mais Aaron a participé. Et quand Moïse va revenir, ce n'est pas tout le monde qui a participé. Ce n'est pas tout le monde qui a participé. Mais ce n'est pas tout le monde non plus qui a dénoncé le mal. Mon frère, ma sœur, nous ne devons pas nous laisser faire. Nous devons persévérer dans la marche chrétienne. Proverbe 1, verset 10, nous dit ceci. Proverbe 1, verset 10. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Ah, mon fils, ma fille, ça c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous parler. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. Mes enfants, si des pécheurs, c'est qui les pécheurs? Ce sont des hommes et des femmes qui vivent dans le péché. Ils peuvent avoir des croix sur eux. Ils peuvent avoir des Bibles sous les aisselles. Ils peuvent parler de Dieu. Mais ce sont des pécheurs. S'ils vivent dans le péché et qu'ils veulent vous encourager à vivre dans le péché, le Saint-Esprit nous recommande de ne pas nous laisser, de ne pas devenir leurs âmes, de ne pas devenir leur proie. Proverbe 2, verset 1. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, voilà la recommandation du Saint-Esprit. Mon fils, reçois, enfin ça commence par si, mais moi je dis, le Saint-Esprit nous dit, recevez ces paroles. Ne vous laissez pas séduire par des pécheurs. Ne vous laissez pas entraîner par le péché. Comme Aaron et le peuple dans Exode 32. Ne vous laissez pas gagner par le péché. Vous savez, quand vous lisez l'histoire de Exode 32, le verset 6, il nous est dit, ils commençaient à s'asseoir, ils se sont assis, ils ont commencé à manger, à boire et à se divertir. D'autres versions parlent, ils ont commencé à vivre dans la débauche sexuelle, dans les orgies sexuelles. Ils ont complètement dérouté de la sanctification. Et le Saint-Esprit vous dit, si des pécheurs veulent vous séduire, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas gagner, ne vous laissez pas emporter, ne vous laissez pas séduire, parce que c'est la mort qui vous a. Trois choses dans votre vie. Il veut voler votre vie, il veut tuer votre vie et il veut détruire votre vie. Attention, peut-être que aujourd'hui c'est le plaisir, c'est l'argent facile, c'est le sexe, c'est le plaisir, c'est la gloire, c'est le succès, c'est l'élévation. C'est les invitations dans les journaux télévisés, dans les spots. Oui, mais si c'est le péché, la finalité, c'est la mort. 32 000 personnes sont mortes en un seul jour, nous dit Paul dans 1 Corinthiens 10. 32 000 personnes sont mortes parce qu'ils se sont laissés gagner par les pécheurs. Mon frère, ma sœur, Jésus ne veut pas vous perdre. C'est vrai qu'il tarde, mais c'est dans votre intérêt. S'il était venu hier, peut-être qu'aujourd'hui vous ne seriez pas sauvé. Alors mon frère, ma sœur, au moment où vous écoutez ce message, Jésus vous dit, repentez-vous. Repentez-vous et persévérez dans la marche chrétienne. Si c'est cela votre désir, vous voulez demander pardon à Dieu. Demandez pardon pour votre manque de persévérance, parce que vous vous êtes relâché et que vous voulez prendre le chemin de la vie, c'est-à-dire Jésus. Et le suivre malgré les obstacles, c'est très simple. Baissez la tête dans la prière et répétez ces simples mots après moi. Dites, Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, me voici devant toi. Je te demande pardon pour mon péché. Je te demande pardon parce que je me suis relâché. Je me relève aujourd'hui par ta grâce. Je reçois Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel. Je prends l'engagement de suivre Jésus-Christ tous les jours de ma vie et dans tous les domaines de ma vie. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour le sang de Jésus-Christ qui me purifie maintenant. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi Dieu vous a entendu. Je suis Raphaël Mambou, le nom de cette émission est Venez à Jésus. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, le veau d'or. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine. Amen.
L'émission « Venez à Jésus » vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.